place.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, vous êtes venus fêter au plein milieu de cette nuit le Christ qui vient dans le monde. Sommes-nous fous complètement que nous n'allions pas nous coucher à une heure pareille et que nous voulions malgré tout fêter la naissance d'un enfant venu il y a 2000 ans? Eh bien, c'est très simple. Il y a deux choses à laquelle il nous faut répondre. C'est la venue de cet enfant, c'est Dieu parmi nous. Et d'autre part, nous voulons être avec lui. Alors tout d'abord, c'est Dieu parmi nous. Si j'avais pu, je vous aurais lu au début de cette célébration, comme c'est de tradition à la messe de minuit, ce qu'on appelle le martyrologe du Christ, qui situe le Christ dans l'histoire. Et oui, c'est étonnant, le Christ s'est laissé situer dans l'histoire. Il nous faut nous déshabituer à l'idée que le Seigneur est bienvenu dans le monde et que ce serait normal. Non, mes bien chers frères, en fait, j'ai un autre micro et ça marche beaucoup mieux, voilà. Et donc, mes bien chers frères, ce n'est pas du tout normal. Dans l'Antiquité, comme toujours, les hommes ont attendu que Dieu vienne du ciel. Et les Juifs, comme les autres, attendaient qu'un jour les cieux s'ouvrent et qu'enfin le Seigneur descende, vienne et les sauve. Ça, c'était pour les Juifs qui savaient que Dieu viendrait sauver son peuple et par là, toutes les nations, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Mais voilà l'originalité de la venue du Christ, c'est qu'elle s'est faite dans l'humanité. Aussi habitués que nous sommes, trop peut-être, les hommes du temps du Christ en ont été particulièrement surpris, et c'est la raison pour laquelle certains n'ont pas pu le reconnaître. Ce qui se passe dans cette nuit, mes bien chers frères, vous vous en doutez, ce qui vous empêche d'aller vous coucher ou de simplement aller vous réjouir en famille simplement, c'est-à-dire juste humainement, ce qui est déjà très bon, eh bien c'est qu'il s'est passé quelque chose de bouleversant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Nous ne fêtons pas seulement la naissance d'un enfant, nous ne fêtons pas seulement l'anniversaire de Jésus, comme disent gentiment les enfants d'ailleurs. Non, ce que nous fêtons, c'est un renversement. C'est l'ineffable, l'éternel, le tout-puissant, l'indicible, l'inatteignable, l'inconcevable, donnez-lui le nom que vous voudrez, c'est-à-dire Dieu, eh bien c'est fait petit, concevable, connaissable. On a pu le toucher et le voir. C'est ça l'extraordinaire de cette nuit, c'est ce qu'on appelle la descente du Christ dans l'humanité. On s'appesantit beaucoup sur l'idée qu'il est venu parmi les plus pauvres. Mais c'est déjà surtout de Dieu qu'il était se faire homme. C'est ça, la barrière infranchissable, la pauvreté incroyable qu'il a osé revêtir, c'est-à-dire qu'il s'est fait l'un de nous. Pourquoi donc Dieu s'est-il fait l'un de nous? Eh bien, c'était, dit la théologie, le moyen le plus convenant. Il convenait qu'il descendît dans notre nature pour conférer à notre nature vraiment le salut. Bien sûr, le Seigneur aurait pu nous sauver en le voulant, en le décidant, en se penchant sur nous, pauvres mortels, et en disant « Bon, après tout, c'est ma création, je vais la couvrir de ma grâce, de ma bonté, et je vais la sauver. » Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a sauvés. Non. Ce n'est pas du haut du ciel qu'il nous a sauvés, c'est du bas de la terre, c'est de l'endroit le plus petit de la terre. Il a daigné descendre parmi nous, se faire homme, s'incarner et à partir de nous, nous sauver. Suivre le même chemin que le mien, prendre la nature qui est la mienne pour que moi-même, dans ma propre nature, je trouve un échange avec la sienne qui est divine. Oui, non seulement le Seigneur nous a sauvés, et c'est bien ce que nous fêtons ce soir, mais en plus, il m'a sauvé selon le mode de la nature, c'est-à-dire en venant jusqu'à moi. C'est totalement extraordinaire. À Saint-Roch, on le sait mieux que tout autre, car tout à l'heure, si vous allez jusqu'à l'autel de la Vierge, où se trouve notre nativité permanente sur l'autel de la Vierge, qui est derrière et que vous apercevez par les sapins éclairés, si vous vous mettez bien dans l'axe et qu'on daigne allumer la croix qui se trouve dans la chapelle du Calvaire, vous verrez que le Seigneur, les bras ouverts, tout petit enfant dans son berceau, mignon et tout beau, touche dans la perspective la croix de son propre calvaire qui se trouve 10 mètres plus loin. De la crèche au crucifiement, il nous livre un profond mystère, ce que nous fêtons ce soir. Mais bien, chers frères, évidemment, ce n'est pas la naissance d'un enfant. Ce n'est pas seulement la naissance d'un enfant. Ce que nous fêtons ce soir, c'est notre salut, c'est le fait que Dieu soit descendu parmi nous, qu'il se soit fait homme avec la ferme intention, le plan divin de nous sauver en s'incarnant, de mener notre nature jusque dans sa mort que nous allons connaître pour pouvoir vraiment nous mener dans sa propre vie, la résurrection. Voilà le premier point que je voulais évoquer très sobrement. Cette nuit est la fête de l'incarnation, la fête de Dieu parmi nous, la fête de Dieu dans l'histoire, la fête de Dieu qui s'est soumis à l'humanité et à la temporalité. Vous l'avez remarqué, a dit l'Évangile, le recensement qui a eu lieu, comme par hasard, c'était le premier de toute l'histoire du monde que nous connaissons. C'est la première fois que les hommes ont trouvé bon de recenser les naissances. Il se trouve que ce fut à l'occasion de la naissance de notre Sauveur. Alors, et nous, mes bien chers frères, que devons-nous faire? Vous le savez déjà, vous êtes déjà venus à la messe, vous avez déjà une idée sur ce qu'il faut faire. Il nous faut nous livrer à la prière et à l'adoration. Il nous faut nous livrer comme les bergers qui sont ici, et je vous propose de vous identifier à ceci. Les bergers, c'est le peuple d'Israël. C'est ceux qui ont connu le Christ par la foi dans la révélation divine. Un petit peu plus tard, dans 15 jours, nous fêterons les nations, nous fêterons les rois mages, qui eux connaissent le Seigneur par la raison, par l'intelligence de la réflexion, et des deux peuples il ne fait plus qu'un, des juifs et des païens, nous en sommes les héritiers. Les bergers, qui sont-ils? Car ils nous intéressent. Les bergers ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont au travail. Et oui, ils sont en train de veiller, comme vous l'êtes, comme je le suis en ce moment. Nous ne sommes pas allés nous coucher, nous attendons la venue du Christ. Les bergers eux-mêmes veillent sur leurs troupeaux et ils attendent. Et ils attendent et cela leur permettra de voir le Sauveur. Une deuxième caractéristique de ces bergers, c'est qu'ils sont les héritiers d'Israël. On a peut-être coutume de dire, dans un certain misérabilisme, il faut bien le dire, « Oh, les bergers, c'est parce que c'est les plus pauvres. » Mais ce n'est pas tellement ça le plus important. Le plus important, c'est que les bergers sont les descendants du roi David. Le roi David, dans sa jeunesse, gardait les troupeaux à Bethléem avant d'être appelé sur le trône d'Israël. C'est donc une fonction magnifique, une fonction incroyable, celle de garder le troupeau et par-delà, de garder tout un peuple. Oui, ces bergers sont l'image du roi David, vaillant, veillant et attendant la mission qui va lui être confiée. Vous aussi, vous ne veillez pas sans intérêt, vous ne veillez pas pour rien. Vous avez été guidés par votre foi, par un ami, par la Providence. Attendez-vous à ce que le Seigneur parle au fond de votre cœur et vous confie maintenant une mission. Oui, cette mission que nous avons à réaliser, c'est celle des anges. Après vous être identifiés aux bergers, je vous invite à vous identifier aux anges. J'espère que vous avez tous fait une crèche chez vous, parce que, vous le savez, cela vient de la méditation de l'Écriture. Au XIIIe siècle, saint François d'Assise a répandu l'usage de faire des crèches vivantes. Alors nous pourrions faire une crèche vivante, hein, tous autant que nous sommes. Et petit à petit, on s'est dit qu'après tout, on pourrait aussi conserver chez nous cette crèche Et l'habitude s'est faite, à partir du 15e, 16e siècle, de faire des crèches en papier, des crèches en terre, bref, celles que vous avez chez vous, certainement, comme je l'ai chez moi. Oui, laissez-vous vous identifier aux personnages qui ont connu le Seigneur, car l'action que vous menez ce soir n'est pas une simple action humaine, c'est une action divine. Alors vous allez être identifié aux anges. Les anges, ce sont les envoyés du Seigneur. Angelos, angelos en grec, les envoyés. C'est vous les envoyés du Seigneur. C'est vous qui allez ressortir de cette église, irradié de la joie de Noël, de cette joie puérile. Et n'ayez pas peur de la joie puérile, n'ayez pas peur de venir embrasser l'enfant, n'ayez pas peur d'être convoqué par tout votre être. Il n'y a aucun geste que nous posions qui soit ridicule, si vraiment il émane de notre cœur. N'ayez pas peur de venir vous jeter aux pieds de cet enfant pour repartir avec la joie puérile de Noël, la joie puer natus est de la naissance d'un enfant qui va bouleverser notre monde, qui l'a déjà bouleversé, qui va le rassembler. C'est maintenant à nous, mes bien chers frères, d'annoncer la joie de Noël à ce monde triste et sans joie, à ce monde incroyablement en attente de la révélation des fils de Dieu. Combien on me dit souvent qu'il est difficile d'annoncer le Seigneur. Combien on me dit souvent qu'il est difficile dans son métier et dans sa famille de témoigner de la joie du Christ. Sachez-le bien, les obstacles que vous rencontrez sont à la hauteur de l'attente de ce monde. Ce monde gît dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Ne le décevez pas, vous qui êtes venus chercher ici la présence du Seigneur qui va se faire à l'intime de vous-même. N'ayez pas peur de l'annoncer à votre tour. Et alors, vous serez vous aussi devenus des chrétiens, des christianus, d'autres Christ, le Christ lui-même. Ainsi soit-il.